Bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission de Radio Courtoisie, enfin de prolongation, excusez-moi, pardon, sur Radio Courtoisie. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, une émission que vous pouvez retrouver toutes les deux semaines de 21h30 à 23h sur votre radio Radio Courtoisie. J'en profite pour vous dire qu'évidemment, il est de bon ton de soutenir les radios qui soutiennent la liberté d'expression de toutes les droites, seulement toutes les droites qui change évidemment de vos impôts qui sont utilisés pour le service public. Je vous invite donc à soutenir cette radio. Vous pouvez le faire évidemment en partageant les différentes émissions que vous pouvez retrouver dans cette belle radio, comme Ligne Droite animée par Liselotte Duterte, ou encore en donnant. Votre générosité sera bien utilisée par cette belle radio. Au programme de ce soir, sur prolongation, plusieurs grands sujets d'actualité et de débat. Le premier et judiciaire, mais aussi littéraire, puisque le président de la République, Nicolas Sarkozy, sort un nouvel ouvrage après seulement 20 jours emprisonné dans des conditions de détenus particulièrement spéciales, exceptionnelles, puisqu'il était lui-même en cellule d'isolement. Il nous sort un livre dont je ne me souviens déjà plus du nom. Cher Pierre, si vous l'avez sous la main, je suis très preneur,
je
vous rappelle le titre.
Je suis en train de regarder Le journal d'un prisonnier, voilà.
Un journal à prisonnier de 20 jours aurait-il dû écrire ? Ce sera l'objet d'un débat. A-t-il bien fait d'écrire ce livre qui sortira le 10 décembre chez Fayard ? Nous en débattrons avec nos chroniqueurs. S'en suivra un débat également sur la primaire. Faut-il une primaire dans le camp national et à droite ? C'est ce que certains appellent de leur vœu, comme Laurent Wauquiez. Des rencontres ont eu lieu entre Laurent Wauquiez, Éric Zemmour, Laurent Wauquiez, Édouard Philippe, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Il arrive à faire l'union dans d'autres parties, visiblement dans le sien, c'est un peu plus compliqué, nous en parlerons tout à l'heure. Également au menu ce soir, évidemment la triste actualité à Marseille, avec les lois narcotrafic qui semblent sans véritable efficacité politique, puisque un jeune homme a perdu la vie suite à cela, et ce qui nous amènera au débat sur ces villes, Marseille, comme Marseille, qui sont en proie au trafic de drogue et à la violence, et qui ont cette particularité d'avoir combattu toujours avec fermeté l'autorité et l'ordre. Est-il temps pour elles, ces villes-là, de changer définitivement ? Et puis enfin, le sujet qui sera au cœur de l'actualité peut-être demain, faut-il un Charlie Kirk français ? Y a-t-il une possibilité pour un espace politique de la sorte ? Y a-t-il le besoin de créer ce débat en France, est-il possible de le faire ? Certains ont commencé à le faire, je pense à Frontières, mais également à Luminis Paris, ou encore à Jean-Yves Le Gallou, des initiatives qui, pour le moment, ne sont pas encore attaquées de façon aussi virulente que les États-Unis, mais évidemment, nous suivrons ça de près. Et enfin, si nous en avons le temps, deux petits sujets, pardon. Le sujet évidemment de la libération de Boualem Sansal, signe-t-elle la fin d'état de grâce de Bruno Retailleau définitivement, puisque ses détracteurs lui expliquent et lui opposent le fait évidemment de son échec par le rapport de force, et évidemment l'attaque est attaquée évidemment de son côté par la droite qui lui explique qu'il n'a servi à rien. Et enfin, si nous en avons évidemment le temps, nous parlerons littérature avec les dernières lectures. Mais avant évidemment de parler de tout ça, et désolé d'avoir été un peu long, mais évidemment mes chroniqueurs s'impatientaient en me voyant vous dérouler ce sommaire, j'ai la chance d'avoir autour de la table Pierre Galland, que vous avez déjà entendu pour ses précisions sur le livre de Nicolas Sarkozy.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Pierre, merci d'être là. Vous venez d'arriver, mais tout juste, mais vous êtes en forme. Emmanuel, vous êtes là depuis longtemps, dans ce studio, j'espère ne pas vous avoir fait attendre trop longtemps avec mon monologue d'entrée d'émission. Bonsoir Emmanuel.
Oui, je ne suis pas du tout essoufflé. Bonsoir Stanislas.
Contrairement à Pierre Galland. Et Antoine, qui nous fait le plaisir également d'être parmi nous. Bonsoir Antoine, c'est votre première fois sur le plateau. Et nous retrouverons, bonsoir Antoine.
Bonsoir Stanislas.
Et nous retrouverons évidemment notre envoyé spécial, Étienne Darjac, qui lui est encore évidemment en train d'enquêter, notamment pour avoir les réactions des différentes personnalités sur la sortie du livre de Nicolas Sarkozy. Étienne, qui j'espère nous reviendra très vite, puisqu'il est en train d'enquêter. Comme je le disais à l'instant sur le sommaire de cette émission, la sortie d'un livre du comte de Monte Cristo, d'un prisonnier du Boualem Sansal de la politique, du Edmond Dantès de Neuilly. C'est évidemment la sortie du livre de Nicolas Sarkozy qui vous a ému, je crois, Emmanuel.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un écrivain qu'on attend toujours avec impatience. Mais non, mais plus sérieusement, c'est vrai que c'est... Enfin, on s'y attendait. Et en même temps, ça nous surprend toujours de la part de Nicolas Sarkozy, ce genre de coup de com' très, très audacieux, très... Enfin, qui lui ressemble beaucoup. Et je pense qu'il faut évidemment rien en attendre. Ça lui permettra de revenir dans le jeu politique, de refaire sa tournée des très bonnes librairies de l'Ouest parisien. Mais c'est toujours assez fascinant, en revanche, et je crois que je partage cet avis avec vous, Stanislas, de voir à quel point il n'abandonne jamais, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher sur le plan politique, sur le plan idéologique, sur tout un tas d'aspects. C'est assez fascinant de voir la capacité qu'il a à chaque fois à profiter de chacune de ces situations, de ces accusations les plus douloureuses et les plus graves, surtout, pour réagir. Et évidemment que ce livre est un énième, je ne sais pas le combienième, ce serait très difficile à calculer vu le nombre d'accusations auxquelles il fait face depuis maintenant un certain nombre d'années. Je pense qu'il n'y aura absolument rien dans ce livre et que ça lui permettra simplement de retrouver son public et de se remettre en scène une énième fois.
Pierre, peut-être sur votre réaction à la sortie du livre de...
En soi, ça me... Pas tellement grand-chose à dire, parce que déjà, on ne sait pas grand-chose.
Mais si on peut dire, c'est ridicule.
Ah oui, jusque-là, je pense que le mot est en effet assez adéquat. Sortir un livre quand on a passé 20 jours en prison, je ne doute pas qu'être en prison soit quand même quelque chose de compliqué... et de qui puisse être traumatisant, même si il était évidemment dans des conditions très particulières, il était à l'isolement,
attendez,
il était protégé,
etc. Personne dit que c'est agréable pendant 20 jours enfermé.
Mais de là à en sortir un bouquin, c'est peut-être un peu excessif.
Antoine, je ne sais pas si vous avez suivi cet événement, attention, toute proportion gardée, mais en tout cas cette sortie quand même de livre prématuré. Alors, Nicolas Sarkozy a un rythme d'écriture assez impressionnant. C'est le Michel Onfray de la politique en termes de parution.
Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est de voir qu'on écrit toujours plus, on écrit d'autant plus qu'on lit moins. Et c'est presque à dégoûter d'écrire, parce qu'il y a toujours plus de gens qui écrivent des livres de toujours plus jeunes. On a vu des hommes politiques ayant pas forcément encore beaucoup d'expérience, écrire, raconter leur histoire, leur vie. Et on voit quelqu'un qui a passé 20 jours... dans une prison, raconter ses 20 jours de prison, tandis que des Edmond Dantès qui avaient passé 14 ans se sont contentés d'agir derrière et de régler leur compte.
Mais ce qui est amusant, c'est que c'est très sarkozyste comme réaction, c'est-à-dire que ça crie beaucoup, ça fait du bruit, ça fait de l'actualité, ça fait du buzz, et en réalité derrière, ni les magistrats, ni les juges qui s'attaquent à lui, ni l'extrême-gauche qui le conspue n'aura affaire de sa réaction de colère et de son comeback raté.
Non, oui, d'ailleurs, on se posera la question, est-ce que les gens lisent quand on achète un bouquin? Il y a beaucoup de bouquins, beaucoup de livres parus, édités, et on n'a de cesse de dire que les gens ne lisent plus. Alors, les gens qui achètent, lisent-ils? Ils liront-ils complètement le livre de Nicolas Sarkozy? Je ne sais pas. On va voir ce qui s'est passé pendant ces 20 jours.
Depuis 20 ans, c'est son 11e livre. Donc ça fait quand même en moyenne un livre tous les deux ans, ce qui est quand même pas trop mal comme rythme, en sachant qu'il a eu un mandat présidentiel entre-temps qui a dû bien l'occuper, et donc où il n'a évidemment pas pris le temps d'écrire pendant ce temps-là, ou en tout cas pas le temps de publier. Donc ça fait quand même un ratio qui est quand même assez impressionnant pour quelqu'un qui n'est à l'origine pas écrivain, évidemment.
Mais est-ce que le paradoxe, on avait déjà eu ce débat-là à l'époque, on doit à la fois, même si le débat que vous soulevez, c'est... Antoine est très intéressant, évidemment. Les gens lisent-ils les livres des politiques? Ils les achètent déjà très peu, puisque objectivement, les ventes sont sorties cette semaine. Xavier Bertrand en a vendu 207. Aurore Berger, Marine Tondelier et Ségolène Royal en ont vendu moins de 200.
Est-ce la catégorie du livre qui ne les a pas fait vendre,
peut-être,
leur auteur,
mais c'est quand même ridicule. C'est-à-dire que c'est des personnes qui font des émissions à plusieurs centaines de milliers de personnes et qui ne réalisent même pas.
Mais on peut aussi citer à l'inverse les livres.
200
de...
personnes, moi je peux inviter 200 personnes à mon anniversaire, quoi.
Oui, non, mais
et
bien
pas
sûr.
Parce que j'ai beaucoup d'amis, juste parce
mais,
que.
Non, mais bien sûr,
gens,
mais de la même façon, on peut aussi dire l'inverse. Les livres les plus vendus et les tops des ventes sont aussi des livres politiques. On pense notamment au livre d'Éric Zemmour, au livre de Jordan Bardella, où il y a quand même des. Ou au livre de Philippe de Villiers également.
Les politiques ne sont pas forcément achetés, hein, et de deux, et sont-ils lus? Emmanuel, on parlait justement de ces politiques qui n'ont plus grand-chose à dire, mais qui ont beaucoup à écrire.
Oui, bah effectivement, ce qui est certain, c'est que le livre est devenu un formidable objet de communication. Ça fait partie du... Si on veut dessiner un peu la stratégie classique d'un homme politique pour son émergence en vue d'une élection quelconque ou de sa résurrection...
Et vous pensez qu'il veut revenir? Pourquoi fait-il ça, à votre avis?
Bah c'est pour être très franc, je pense qu'on est d'accord sur le fond sur Nicolas Sarkozy, et en revanche, là où je suis assez impressionné, c'est que justement, a priori, il ne cherche rien. Il n'y a personne, enfin je crois qu'aucun commentateur sérieux n'a envisagé, sauf quelques groupies dans ces derniers mois, n'ont envisagé qu'il se présente en 2027 ou qu'il brigue je ne sais quel mandat. Donc c'est ça qui est assez fascinant, c'est que, contrairement à d'autres, je pense à Cahuzac, hein, qui avait, avant de revenir en politique, très très brièvement, assumé de quitter totalement le spectre politique et médiatique pendant quasiment un an, je crois, en Corse. Lui, au contraire, ne lâche jamais rien. Et il y a une forme de...
Je pense, il lâche pas la médiatisation, mais...
Oui, j'ai pas envie de dire de courage, mais c'est assez étonnant. C'est que je disais justement que le livre était devenu, et c'est très triste, hein, parce que ça fait beaucoup de mal au livre, justement, et à la littérature, était devenu un objet de communication formidable qui était une espèce d'étape.
Moi,
absolument...
je trouve que à force d'en avoir en permanence...
Ah, mais je suis d'accord, sur
ce
le fond...
Ce n'est plus du tout un...
Sur le fond,
même
ça...
Même sur la forme, en réalité. Bah, c'est un peu grotesque, mais... personne ne retient ce qui... Personne n'est... Si quelqu'un ici est capable de me dire en substance, je te raconte le livre de Villiers,
mais
le livre de Bardella, le livre de Ted Zemmour, c'est un peu différent, objectivement.
Ah oui, c'est différent.
Ce que je vais vous dire, mais même Villiers, qui est un livre... qui est censé être un livre de fond, qui doit faire 300 pages. Si quelqu'un est capable de me résumer le livre de Villiers aujourd'hui...
Et M. Barnier aussi a publié
Barnier
un
aussi,
livre.
Xavier Bertrand, on ne sait pas quoi.
Ouais, et pour avoir lu d'ailleurs, je crois, comme Antoine, qui m'avait, pour ne pas trahir de secret, partagé les premières pages des livres de Philippe et de Barnier, qu'il n'avait pas acheté, je précise. Antoine n'est pas un sympathisant LR. Mais
non, Antoine
avait...
Touchard est quelqu'un qui est plus droitier.
Qu'il avait vu en librairie. On avait été tous les deux très très affligés du niveau de ces deux personnalités, dont l'un était quand même très récemment le Premier ministre. Bref, mais pour revenir à Nicolas Sarkozy, on est évidemment d'accord sur le fond que ça dévalue totalement les livres, et que d'ailleurs ça ne fait pas malheureusement le succès, ça ne suffit pas à faire le succès des librairies qui vendent de moins en moins de livres. En revanche, ce qui est certain, c'est que si aujourd'hui, en bon communicant Stanislas, on veut dessiner la stratégie d'influence et de communication d'une personnalité publique avant son accession à une fonction, on est obligé de passer par cette étape.
Et
l'exemple, l'exemple de Jordan Bardella est extrêmement pertinent. Il a été obligé, pour se construire ou tenter, chacun jugera, de construire sa stature présidentielle, de passer par l'étape de la confession intime et du programme politique, avec plus ou moins de succès, tant sur la confession que sur le programme. Mais ces deux, enfin malheureusement, le livre n'est plus ce qu'il était, mais est devenu ce formidable prétexte visibilité médiatique.
Je vous dire, je pense que ces gens-là ont 5 ans de retard, et moi, communicant, je ne conseillerais pas à quelqu'un qui veut émerger dans le débat public de sortir un livre pour sortir un livre. S'il y a des choses à dire, c'est une chose, mais c'est juste un objet politique, un objet visuel ou un objet permettant de créer une actualité. Moi, je me contenterais plutôt du conseil de
relire Brasiac,
de faire du fond et pas simplement de la forme. Antoine, justement, vous avez des mots à Étienne Darjac qui nous revient justement de l'Assemblée nationale où il a pu justement discuter avec quelques députés sur la sortie et la parution du livre de Nicolas Sarkozy, qui est un... Alors un événement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, un événement alors, à titre très personnel, j'en suis plutôt affligé. Je pense qu'on va lancer après le débat qui sera plus simple, mais c'est la droite doit-elle continuer de faire semblant de s'émerveiller de Nicolas Sarkozy en permanence? Mais avant toute chose, comment allez-vous, Étienne?
Ça va très bien, cher Stanislas, je suis navré pour ce retard.
Ah mais
ben, je... contraintes professionnelles.
Ah mais bien sûr, ne vous inquiétez pas, enfin on vous pardonne.
Merci, cher Emmanuel. Vous allez bien? Fait plaisir de vous voir.
Très bien, Étienne. Votre réaction sur la Nicolas Sarkozy?
Ah, vous me lancez tout de suite sur un sujet que j'affectionne.
Bon, vous en avez fait trois vu votre temps d'arrivée.
Écoutez, l'escroquerie Sarkozy continue. On y a eu le droit, on a eu le droit au nouveau martyr de la droite française pendant sa condamnation.
C'est Sainte-Clotilde, là.
Comment?
Sainte-Clotilde.
Et oui, à peu près, ouais. C'est, on a eu le droit au sketch du nouveau martyr pendant sa condamnation. On a eu le droit au sketch de l'otage libéré pendant sa libération. Et maintenant, on a le nouveau comte de Monte Cristo. Voilà, celui qui a appris la vie. Qui a appris sur lui-même pendant ses 20 jours de détention à manger des yaourts. Et qui va.
Après avoir médité sur le Christ.
Oui, notamment. Mais pas que.
Et d'ailleurs, si Nicolas Sarkozy devait inviter quelqu'un à dîner, ce serait le Christ.
Ouais, je pense, ouais. Bah, en même temps, quelle profondeur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais.
Si je peux vous lire la quatrième de couverture qui est quand même assez représentative.
En exclusivité sur ce plateau.
Attention. À offrir à tous vos grands-parents.
Ah non, mais c'est même si, évidemment, c'est assez fabuleux et ça va illustrer le propos d'Étienne.
Je vous le dis, mais évidemment, il faut préciser, c'est au livre aux éditions Fadiar, qui est une très bonne maison d'édition.
Bien sûr.
Et bien évidemment, travail.
À ne pas confondre avec le livre qui porte quasiment le même titre qui a été publié il y a un mois par Gilles-William Gonalel. Il y a une petite confusion, je vous le dis pour Noël. Soyez vigilants. À la Fnac, il faut ne pas acheter journal. Je confonds encore. Voilà, journal d'un condamné, mais le journal d'un condamné, oui, ou l'inverse.
Nicolas Sarkozy, c'est le journal d'un prisonnier.
Voilà. À ne pas condamner.
Gonalel a vraiment écrit un livre qui s'appelle Le journal d'un condamné.
Il y a un mois, dans la même maison d'édition.
Je ne savais même pas.
Voilà, faut faire attention.
Et ça mange quoi, ou comme Gonalel?
Mais la même chose.
Non, bah, formidable.
Bon, en tout cas, c'est une très belle maison d'édition.
De belles affaires pour la maison Fayard en ce moment. Hein. Ah bah, ces affaires marchent.
Il y a une publication de livres qui est quand même assez.
J'ai hâte de voir le bouquin de Marine Le Pen sur l'interdiction de se présenter à la présidentielle.
C'est amusant.
Il portera le même titre.
Il y a plus de livres parus chez Fayard que de ventes pour Marine Pondelier. C'est
extraordinaire. Il y a eu 207 ventes.
On en a parlé il y a 15 minutes, puisque l'émission a commencé il y a 15 minutes. Allez-y, Pierre.
En prison, il n'y a rien à voir, rien à faire. J'oublie le silence qui n'existe pas à la santé, où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant. À l'image du désert, la vie intérieure se fortifie en prison. Nicolas Sarkozy.
Ok, Saint-Exupéry.
Ouais, bah je pense que c'est de ce niveau-là, à peu près, ouais.
C'est le niveau d'André Chénier. Jean-Antoine, vous nous a pas entendu dans le micro, mais peut-être que nos...
C'est du niveau de tout ce que les autres condamnés ont pu écrire dans l'histoire.
Bah, après, de ce qu'est-ce qu'il se gêne,
c'est pas depuis 15-20 ans, c'est peut-être le seul bouquin qui sortira de prison depuis 15-20 ans. du mot en français.
Oui,
et comme quoi, la réinsertion, je finis par y croire.
Ah, bah, nouveau débat.
Peut-être travaillera-t-il chez Emmaüs.
Et si derrière tout ça, en fait, il ne faisait pas campagne pour son fils?
Alors c'est même
alors, c'est une très mauvaise analyse. C'est
parce que le plus probable est qu'il perde.
C'est même pas l'option la plus inquiétante. Le pire, c'est qu'il pourrait faire campagne pour lui-même.
Ah ben voilà, on en
parlait justement.
Alors, Emmanuel ne croit pas du tout.
Eh ben Emmanuel se trompe comme d'habitude sur à peu près tout.
Ah, vous pensez qu'il veut. Attendez, c'est très sérieux parce que Étienne revient avec quelques infos exclusives.
Oui, bien sûr. Alors, j'ai rencontré Pascal Praud, son attaché de presse.
Pascal Praud qui d'ailleurs, et rappelons-le, a été attaqué honteusement par le journal Libération aujourd'hui. Pascal Praud qui fait des audiences absolument incroyables sur une chaîne concurrente et qu'il faut évidemment saluer pour son travail et son courage, évidemment, face à la meute déchaînée.
Tout à fait. Et je salue également la très très belle couve de Libération.
Toujours aussi esthétique.
Toujours aussi esthétique.
C'est vrai.
Quand ça va, il faut le dire aussi.
C'est vrai.
Ouais, moi, j'ai pas peur de le dire.
Mettons de côté les blagues.
D'aucuns à gauche rêvent du retour de François Hollande en 2027.
On va en parler de ça.
Je trouverais assez ironique et finalement une assez belle vengeance de l'histoire que le macronisme qui devait balayer le vieux système politique se conclut par un retour du duel François Hollande-Nicolas Sarkozy. En tout cas, je suis persuadé que, peut-être pas lui, mais une partie de son entourage espère capitaliser le plus possible sur cette opération, et de toute façon, l'entièreté de cette affaire n'est rien d'autre qu'une capitalisation de la part de Sarkozy et de ses proches, qui, à défaut de pouvoir, essaie de se faire le plus d'argent possible sur cette affaire sordide. Ça en dit très très long sur ce qu'il est et sur son entourage.
Pierre, peut-être là-dessus, sur le retour potentiel de Nicolas Sarkozy.
Je sais même pas quoi. Enfin, Franchement, ce serait quand même une ouais, je, honnêtement, j'ai même pas les mots.
Ça me paraît quand même
je nous le souhaite improbable, mais c'est vrai qu'avec lui, on peut quand même s'attendre à tout.
En vrai, elle est bien dit l'aveugle.
Ouais.
Bon, plus sérieusement, peut-on avoir le débat
Peut-on avoir le débat
Peut-on avoir le débat
Est-ce qu'on peut le dire?
Est-ce que la droite française a le droit de critiquer Nicolas Sarkozy aujourd'hui?
Oui, elle le doit.
Qui
même
le fait aujourd'hui dans ses classes politiques? À droite.
Oui, je pense effectivement, même si on a tous une grande fidélité, voire même une amitié, je crois, Stanislas pour Pascal Praud, c'est vrai que je pense.
Je parle de la classe politique, Pascal Praud est journaliste.
Mais bien sûr.
Vos remarques sont assez déplacées, Emmanuel.
Je voulais venir sur le fond.
Est-ce que le RN a raison, ou est-ce que Rebonclet a raison de soit rien dire, soit de défendre Sarkozy?
Je pense que de la part du RN, il y a forcément une position très, très opportuniste. C'est-à-dire que, étant donné la situation de Marine Le Pen, ils ont tout intérêt à ne pas rentrer dans une position trop, une posture trop offensive par rapport à Nicolas Sarkozy, et en quelque sorte s'arroger le soutien de Nicolas Sarkozy. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose de très opportuniste qui est lié au calendrier législatif, judiciaire de Marine Le Pen. En revanche, ce qui est triste, c'est qu'effectivement, on sent très bien qu'il y a des logiques très, très fortes au sein de la droite, et notamment évidemment au sein de LR, mais bien au-delà, en fonction des clans encore qui structurent la droite autour de Nicolas Sarkozy. On voit l'influence, mais exceptionnelle encore, de Nicolas Sarkozy, qui n'occupe aucune fonction au-delà de son titre d'ancien président de la République. Et on voit très bien qu'il tient dans sa main quand même encore beaucoup de journalistes, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de ministres. Il y avait tout le débat qu'on a déjà eu hors antenne, hein, évidemment, sur la visite qu'avait fait Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, à Nicolas Sarkozy.
Il a raison.
Oui, mais en même temps, le signal politique qu'il envoie est quand même assez contestable. La visite qu'il avait fait à Emmanuel Macron la veille, pas la veille, mais quelques jours, je crois, avant son incarcération, où il lui avait transmis, à ce moment-là, une liste de députés qui étaient prêts à le soutenir sur certaines décisions au Parlement. Donc c'était assez fascinant de voir, alors que sa posture était quand même très délicate étant donné sa condamnation, l'influence qu'il avait dans le paysage politique. Et ce qui est dommage, effectivement, c'est qu'étant donné cette influence, beaucoup est refusée, alors même que leur ligne politique l'exigeait, d'avoir une posture plus juste par rapport à l'ancien président et à sa condamnation. Donc, mais le sujet est un peu délicat. Moi, personnellement, je trouve qu'effectivement, il y a deux choses qui se mélangent. Il y a à la fois le jugement qu'on a par rapport à la politique que Nicolas Sarkozy a menée, notamment pendant son quinquennat, et en même temps, le jugement qui, en lui-même, est évidemment très partisan. Donc, je pense que cette posture est objectivement délicate.
De quel côté, pardon, le...
C'est-à-dire que, étant donné ce qu'il a prouvé pendant son quinquennat et les espérances...
Et ça, j'ai compris.
Voilà.
Mais sur le jugement.
On est obligé d'être très dur envers lui, ouais, et très critique. En revanche... Je crois qu'on peut tous aujourd'hui constater que la décision qui a été énoncée est largement partisane, et on peut tous comprendre que c'est évidemment la gauche qui est à la manœuvre et le syndicat de la magistrature. Donc c'est difficile objectivement.
Vous pensez vraiment, vous, que Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, ignorait que Claude Guéant et Brice Hortefeux, ses meilleurs amis, soient retrouvés avec un dictateur?
Bien sûr.
Un des plus sanglants de ces 30 dernières années.
Simplement.
Et qui n'était pas au courant.
Mais la justice, c'est pas des pensées, c'est des faits.
Le problème, je nie pas ce que vous dites. Simplement, si on regarde...
C'est une question, hein, je n'ai pas la réponse.
Si on regarde la décision, on est obligé de comprendre, notamment, pour prendre qu'un seul exemple, le sujet de l'exécution provisoire de la peine, qui est lié à un potentiel trouble à l'ordre public, que la décision est exagérée et partisane. On ne voit pas un ancien président de la République de l'âge de Nicolas Sarkozy, dans la posture politique dans laquelle il est, vouloir récidiver en matière de compromission avec un dictateur étranger en vue d'une prochaine élection présidentielle. C'était pas improbable, c'était hautement improbable.
Bah, donc, ne serait-ce que parce qu'il est en train, quelques jours avant de se rentrer en prison, de discuter avec le président de la République.
Mais il n'y avait aucun
de
sujet
de faire
aucune
de la
probabilité de corruption avec un dictateur étranger
alors,
en vue d'une élection.
Pardon, mais un an et demi avant cette condamnation, le clan Sarkozy, indirectement, a tenté de retourner Ziad Takedine et a organisé une fausse rétractation de Ziad Takedine. En espérant faire basculer ce procès, donc...
Oui, mais ça n'a pas de lien,
pas.
Vous avez lu le dossier en entier ?
Bien sûr,
comme tout le monde.
Bien sûr, j'ai une formation en droit.
Sérieusement ?
Mais
au moins le compte rendu.
Oui, je pense. Mais pour être très franc, Étienne et Sénégal, je pense qu'on est d'accord sur le fond. On est tous d'accord pour dire que la probabilité qu'il soit coupable est quasiment pleine. En revanche, de fait, malheureusement, on est obligé de voir aussi que l'impression, et je crois qu'on en a déjà discuté, c'est que les juges étaient persuadés comme nous que Nicolas Sarkozy était coupable, mais qu'ils n'ont pas trouvé, et c'est ça leur tort, hein, la bonne manière de le convaincre, enfin, pardon, de le prouver, et qu'ils ont été obligés d'utiliser des motifs plus ou moins médiocres pour le mettre en prison. Donc, ce qui est difficile, c'est que, politiquement, on est obligé de le condamner et au fond de le détester. Si on a tous lu, je pense, La Cause du Peuple, donc on pense tous la même chose. Ensuite, au niveau de la situation par rapport à Kadhafi et à tout ce système de corruption qui a été mis en place, je pense qu'on est tous d'accord, il y a eu suffisamment d'affaires pour ne pas croire qu'il est absolument blanc. En revanche, et c'est ça le plus dur, c'est que le procès en lui-même est délicat et est probablement injuste. Et d'ailleurs, si on regarde le traitement international dans la presse internationale de cette décision, force est de constater que les médias, notamment anglo-saxons, ont tous été extrêmement choqués de la décision. Et peu importe la position qu'ils avaient eue auparavant par rapport à Nicolas Sarkozy, tous ont dit que la justice était partisane et ont du coup une image assez désastreuse de la France.
Si c'est une question d'image, il vaut mieux que la justice ait été dure et l'ait mis pendant 20 jours en tôle plutôt d'apprendre que le président de la République en exercice et traité avec des dictateurs qui ont causé la mort de plusieurs centaines de Français. Et si c'est vrai, c'est 4 fois, 5 fois, 100 fois plus grave que de l'avoir foutu en tôle.
Je suis d'accord, mais vous conviendrez que c'est quand même un sujet délicat puisqu'on n'a pas envie de prendre parti pour l'autre.
Alors, sur ce dernier point, d'accord, mais c'est pas un sujet délicat.
Personne n'est pour les juges ici.
C'est pas un sujet délicat. Je pense qu'il faut avoir un avis particulièrement tranché. Et pour répondre à la question initiale de Stanislas, qui était, je crois, maintenant il y a une petite heure et demie avant votre prise de parole.
Quand vous n'étiez pas là, Étienne.
C'est possible. Donc à ce jour-là, Étienne, restez doucement à votre place.
Non, Stanislas, vous demandiez.
Il essaie de se racheter là.
Pourquoi est-ce que la droite, une partie de la droite en tout cas, se sent obligée de le défendre corps et âme? Je crois qu'il y a une raison. Il y a deux raisons principales. La première, c'est que on est à un an et demi d'une présidentielle que chacun sait que Nicolas Sarkozy, à notre corps défendant à nous, conserve une emprise assez forte sur une partie de l'électorat de droite, peut-être pas la meilleure partie, mais le fait est, et que ça agacerait sans doute beaucoup de gens si un candidat à la présidentielle se mettait à fracasser Sarkozy, comme on le fait en ce moment. La deuxième, c'est effectivement que notre camp, et a toutes les raisons de le faire, se méfie extraordinairement de la justice, de la justice politique. On a évidemment tous les éléments et tous les motifs valables pour s'en méfier, pour même lutter contre, à la fois par la persécution dont elle se rend coupable vis-à-vis des militants nationaux, et par on a eu le cas de Jean-Luc Gana très récemment. Hein. Donc il y a d'une part la persécution des militants nationaux, qui est un phénomène très grave, la dissolution d'une myriade d'associations parfaitement innocentes, et d'autre part le laxisme dont elle fait preuve vis-à-vis de l'insécurité, des populations immigrées, de la délinquance, de la criminalité. Donc évidemment que c'est ce deuxième argument, j'allais dire anti-justice, est valable. Maintenant, ça ne doit pas nous retenir parce que il ne s'agit pas de, pour taper sur l'un, repêcher l'autre. On doit pouvoir dire que la justice française est dans un état catastrophique et entraîne le pays par le fond, en disant simultanément que Nicolas Sarkozy, sans doute plus que d'autres, a particulièrement entraîné le pays par le fond.
C'est un peu la ligne de Pierre Soudarel, si je ne me trompe pas.
Vous me faites un très beau compliment, cher Emmanuel.
Eh oui, je le sais.
Antoine, Pierre, peut-être sur ce débat avant de d'autres sujets nous attendent, évidemment, peut-être Pierre ou Antoine. Enfin, après les deux mi-temps que l'on vient d'assister, il y a peut-être des prolongations, sans moi jeu de mots. Non, si vous n'hésitez pas.
Bon, non, mais au-delà, oui, je pense que moi j'irai en fait même plus loin sur la position du Rassemblement National.
Vous
que...
êtes un pro, vous êtes côté Étienne ou côté Emmanuel sur le sujet?
Bah, je suis assez
d'accord. Vous avez voté Sarkozy.
Je suis d'accord sur le fait que, en effet, objectivement, il paraît quand même très clairement coupable, mais que, en effet, la justice n'a juste pas réussi à trouver les preuves pour le faire et donc a suivi son intuition et donc ça affaiblit la décision. Mais je pense que sur l'influence de Sarkozy, il y a aussi
Elle a trouvé des preuves. Hein. Enfin, faut lire le compte rendu.
Mais c'est là objectivement, il a quand même été blanchi d'un certain nombre d'accusations qui pesaient contre lui.
Il est coupable de tout.
Le sujet, c'est pas sa culpabilité, c'est son incarcération et son incarcération immédiate. C'est là la subtilité, Pierre. Je me distingue de votre propos.
Il est coupable de ça et du reste.
Il y a beaucoup de choses pour lesquelles il n'a pas été condamné.
Énormément.
Oui, non, mais ça, là-dessus, je pense qu'on pourra tous se rejoindre. Mais...
Ah, ce qui n'empêche pas, en fait, moi, ce que je ne comprends pas dans le débat, c'est qu'on peut très bien dire que c'est un président qui a une certaine aura, qui a un charisme impressionnant, qui était un très très bon discours, qui est courageux, qui est costaud, blablabla, tout ce qu'on veut, et dire juste simplement, on n'est pas obligé d'être en pamoison devant lui, 20 ans, 10 ans, 15 ans après ses premiers exploits politiques, et franchement, vu la France qui l'a laissé.
Mais
ce qui est amusant, c'est que le Rassemblement National n'a même pas appelé à voter pour lui en 2012. C'est quand même
formidable. Mais bien sûr. Mais malgré tout, aujourd'hui, le Rassemblement National, justement, est dans une position où ils veulent tout faire, et où en tout cas, surtout ne rien faire qui pourrait les empêcher d'accéder au pouvoir. Et donc, en effet, ils ne veulent pas se fâcher avec les électeurs de Sarkozy, et encore moins avec Sarkozy, parce que si Sarkozy sort une phrase dans la presse avant l'élection présidentielle en disant que, mais non, le RN, ça va, ce ne serait pas dramatique au pouvoir. Et bah, ça peut leur faire du bien, ils peuvent en avoir envie. Et donc, pour ce genre d'intérêts électoraux, en effet, je pense que le RN ne prend pas du tout position sur le sujet.
Et bah, écoutez, chers amis, nous retrouvons en quelques instants après une petite pause musicale et je laisserai aux chroniqueurs qui sont avec moi ce soir le loisir de deviner de quelle musique, à quelle musique nous avons le droit ce soir, pardon.
En 2025, Radio Courtoisie fête ses 38 ans. Pour célébrer ce bel événement, rejoignez-nous à la messe d'Action de Grâce à l'occasion de cet anniversaire et aux pots amicales qui auront lieu le samedi 22 novembre en l'église Saint-Eugène-Sainte-Cécile, 4 rue du Conservatoire, Paris 9e. Pour participer au pot, inscrivez-vous en ligne sur notre site internet anniversaire.rc.fr ou par courriel à secrétariat@rc.fr ou encore par téléphone au 01 46 51 00 85.
Genre au pied. Et bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur cette deuxième partie de l'émission Prolongation, votre émission vous pouvez retrouver toutes les deux semaines le vendredi de 21h30 à 23h. En direct de Radio Courtoisie, j'ai la joie, le plaisir, l'honneur d'être en compagnie d'Étienne Darjac. Étienne Darjac, bonsoir, vous êtes en pleine forme, j'ai l'impression.
Je suis en pleine forme, tout à fait.
Pierre Galland, journaliste, nous fait plaisir d'être là pour cette émission. Antoine, dont c'est la première émission parmi nous, j'espère
bienvenue,
pas la dernière.
Bienvenue Antoine,
c'est un honneur.
J'espère pas la dernière, normalement nous avons un questionnaire qui se pose à tous les chroniqueurs, mais Emmanuel m'a dit que votre sensibilité nous interdisait de le faire. Ah bon. Et Emmanuel, j'en profite, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Dont la sensibilité malheureusement nous empêche également.
Oui, mais vous êtes toujours parmi nous et oui. Vous avez enfin réussi à reprendre votre souffle.
Oui, c'est ça. Effectivement, je suis arrivé un peu en retard, mais moins en retard qu'Étienne, donc ouais. Ça m'a rassuré. Et voilà.
On est très heureux d'être entouré de lièvre, mais ma petite tortue Pierre est là, elle va nous faire un petit résumé par rapport au lièvre à la tortue de la fontaine.
Oui, on a compris. Effectivement.
Je disais ça justement pour tortue. Donc tortue va nous faire un petit résumé de ce qui se passe à droite sur les primaires, avant de lancer le débat.
Eh ben, on a des grandes tractations, si on peut appeler ça comme ça, entre donc Laurent Wauquiez qui, il y a quelques semaines maintenant, avait affirmé qu'il fallait une primaire allant d'Édouard Philippe à Sarah Knafo. Et il le met plutôt en pratique dans le sens où il a rencontré les principaux intéressés, puisqu'il a rencontré Édouard Philippe il y a quelques jours, il a rencontré Éric Zemmour également. Il en a discuté avec Bruno Retailleau et bon, visiblement, en effet, c'est ce qu'on disait en début d'émission, là où il aura peut-être le plus de mal à convaincre, c'est peut-être dans son propre coin, dans sa propre famille politique, parce que à la fois Édouard Philippe et Éric Zemmour ne se sont pas du tout montrés hostiles à l'idée de ce projet-là. Mais après, la question, c'est est-ce que la droite en a besoin et est-ce que ça en sortirait quelque chose de bon? On sait tous les risques qu'il peut y avoir avec une primaire où à la fin on ne fait que plus se diviser que se rassembler autour d'un candidat unique à la fin.
Étienne, pour lancer ce sujet, est-il une bonne chose pour le camp national ou la droite d'avoir recours à une primaire pour départager son champion à l'aune de la présidentielle 2027?
Bah, il y a plusieurs sujets. Ça dépend ce qu'on veut faire de cette primaire et dans quel objectif. La première question, le premier lièvre qu'il faut lever, je continue dans les lièvres, vous me permettrez, cher Stanislas, c'est la présence ou non du candidat RN dans cette primaire. Il apparaît assez probable que le candidat en question, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, n'y participera pas. Ça paraît assez évident quand on fait 35% et qu'il y a 2-3 mecs à 2% qui font eh oh, eh ben on répond pas. Donc il paraît assez évident que cette primaire servirait plutôt à désigner un candidat unique d'une droite qui ne se définirait que par sa non-appartenance au RN. Ce qui est pas un exercice inintéressant. Je pense que le principal intérêt d'une...
Enfin, la vie politique française est peut-être cornérisé via des sondages, mais il y a aussi des idées derrière tout ça, et peut-être que cette droite dont vous parlez, sur le plan économique, sur le plan sociétal, n'est peut-être pas tout à fait en accord avec le Rassemblement National, cher Étienne.
C'est tout à fait possible, cher Stanislas, mais je ne crois pas en tout cas que, même si c'était le cas, qu'elles soient d'accord entre elles sur ces sujets-là. Un attelage qui va d'Éric Zemmour à Sarah Knafo, de Laurent Wauquiez à Éric Zemmour en passant par Édouard Philippe me paraît un tout petit peu exotique. Donc je pense que le principal intérêt de cet exercice de pensée de la primaire, c'est plutôt en amont de la présidentielle, et en amont surtout des législatives qui suivraient la présidentielle, de se faire parler les différents membres de cette droite hors RN. On parlait de droite hors les murs, maintenant c'est la droite hors RN. C'est de se faire parler, de se faire rencontrer tous ces gens-là, et qu'ils aient l'occasion déjà de définir les modalités de leurs relations, et notamment des relations qu'ils pourraient nouer dans le cadre d'accords législatifs, en vue des législatives qui suivront la présidentielle. Je pense que c'est surtout de ce point de vue-là que c'est intéressant.
Cher Antoine, alors justement, c'est Julien Rochedy que j'ai écouté pas plus tard qu'hier, qui avait une analyse pas inintéressante de la situation politique, en expliquant que les différences aujourd'hui entre les Darmanin, Wauquiez, Tnafo, même Bardella, Le Pen et compagnie, n'étaient pas des différences de nature, mais des différences de degré, et que toutes ces personnes étaient plus ou moins en fait d'accord pour une forme de renouvellement sur l'autorité, des principes de base de l'éducation, ou globalement mettre fin à l'immigration, mais qui ne se distinguait que par des degrés d'agressivité sur ces sujets, ou en tout cas de fermeté, mais pas tant sur une question de nature.
En incluant un candidat RN ?
Et en incluant RN, il inclut le RN là-dedans.
Il y a un argument que le RN a toujours mis en avant, c'est que c'est le seul candidat, alors maintenant le Reconquête arrivant sur le terrain, le débat est relancé, mais le RN n'a jamais eu de candidat ayant eu des responsabilités politiques. Donc ils ont toujours joué sur la sincérité.
LFI non plus.
LFI non plus, mais à droite, sur le camp à droite, on parle de la primaire. Le RN n'a jamais eu de candidat ayant remporté une élection présidentielle, donc ils n'ont jamais été au gouvernement ni au pouvoir, ils n'ont jamais agi. Donc on peut croire à leur sincérité, en tout cas c'est ce qu'ils demandent, tandis que LR et autres partis du centre droit jusqu'à Reconquête exclus, eux ont été aux affaires, ont été au pouvoir, et ce qu'on peut leur reprocher, c'est que ces gens-là ont toujours, quand ils ont été au pouvoir, fait autre chose que ce qu'ils ont dit avant. On parlait tout à l'heure de Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'on lui reproche aussi. Sa campagne en 2006, avant la présidentielle de 2007, n'a rien à voir avec ce qu'il a fait ensuite, notamment sur les questions d'identité et d'immigration. Donc, les différences ne sont pas que de degré. Certains ont été au pouvoir, d'autres non. Donc il y a aussi peut-être une question de sincérité, une question de...
Oui, mais alors, je vous rejoins bien volontiers, simplement... Cet argument peut aussi se retourner, c'est peut-être tout simplement parce qu'ils n'ont pas été au pouvoir qu'ils n'ont pas pu se rater. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu montrer leur force et leur talent et leurs convictions, évidemment. Mais ils n'ont pas eu, eux, à subir des crises comme celle pour Nicolas Sarkozy, pour le défendre, il faut bien une fois dans la soirée, la crise de 2008, François Hollande, la crise du terrorisme, ou Emmanuel Macron, évidemment, la grande crise du Covid-19, de la Covid-19, comme certains aiment bien le dire ici. Emmanuel, sur ce principe de primaire, quelle est votre position de principe ?
C'est difficile. Je pense que, si je ne me trompe pas, et je parle sous votre contrôle, et je serai court, Étienne, promis, et je suis déjà très long, mais sur le principe de la primaire, si je ne me trompe pas, la primaire a été imaginée avant l'élection de 95, quand Balladur a voulu se lancer dans l'aventure face à Jacques Chirac, et c'est là qu'ils ont imaginé le principe d'une primaire à l'américaine qui était organisée par l'État. Et ils ont voulu former un projet de loi qui a fini par échouer. Et la primaire s'est pas mise en œuvre parce que le projet initial, c'est de mettre en œuvre une primaire avec tous les électeurs français. Donc c'était une espèce de pré-campagne présidentielle et c'est pas mis en œuvre. Mais la première grande primaire, c'est 2002 avec, je crois, c'est déjà les écologistes puis les socialistes qui mettent en place ça, avant l'UMP après. Et le principe était que c'est comme ça qu'elle s'était imposée, c'est que en fait il y avait un éclatement du paysage politique et qu'il fallait réunir les électeurs absolument avant le premier tour pour que s'impose un chef au second tour. Le principe étant que le paysage politique était trop divisé et qu'il fallait absolument départager auparavant les électeurs de droite pour qu'émerge un leader qui puisse s'imposer au second tour. Donc en soi, là aujourd'hui, au vu du paysage politique, le principe est pertinent. Simplement, ce qui est très paradoxal, c'est que, enfin, paradoxal non, mais ce qui est très délicat, c'est qu'on ferait une primaire qui, selon certains hommes politiques, irait jusqu'au macronisme en excluant le RN. Donc c'est, enfin c'est, je trouve que l'idée est bonne sur le de manière abstraite et assez fidèle à son origine, mais qu'aujourd'hui elle est assez particulière puisque le RN est largement en tête. Enfin l'écart de dans les sondages est absolument ahurissant et en même temps ne participerait pas à la primaire. Donc je trouve qu'aujourd'hui malheureusement l'idée a pas beaucoup d'avenir.
Alors, elle n'a pas beaucoup d'avenir avec le RN.
Oui, avec le RN, bien sûr.
Mais c'est au RN de décider s'ils y participent, s'ils refusent.
Mais sauf qu'une primaire de droite sans le RN, quoi qu'on pense du RN...
Mais ils ne se revendent pas de droite.
Oui, je suis d'accord, mais ce serait absurde qu'il y ait dans une primaire de droite un Gérald Darmanin et pas le RN, quoi qu'on pense du RN.
Mais précisément, le principe...
Attendez, si le sujet... Donc, le sujet n'est pas tant de savoir si la primaire est une bonne chose et de qui voudrait y participer. Le sujet, c'est les modalités d'une primaire. Le sujet est peut-être de savoir sur quel principe se rassembler. Étienne.
Oui, c'est très juste, cher Stanislas. Et c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure dans mon propos qu'Emmanuel n'a sans doute pas écouté. Cette primaire ne se définirait et ne serait pertinente que parce qu'elle n'inclurait pas le RN. On observe en fait exactement la même logique à gauche. Et c'est ce scénario que semble se diriger la présidentielle. On a des deux côtés des leaders difficilement contestables. Alors c'est plus flagrant pour le RN à droite, la famille de Sage en tout cas, mais on a de deux côtés deux piliers, donc le RN, la France Insoumise.
Et un talonneur au milieu.
Et le centre au milieu, effectivement.
Logiquement.
Donc voilà. Beaucoup semblent déjà, et j'en fais pour l'instant partie, pour être honnête, pronostiquer un affrontement au second tour entre ces deux forces politiques-là. Et on a autour, dans l'univers de ces deux candidats, on a une myriade de petits candidats qui ont chacun des variations plus ou moins importantes avec le leader de leur camp et qui se bagarre entre eux, un peu absurdement peut-être, sur qui sera celui qui aura le privilège d'affronter le patron de son propre camp. C'est un peu la même logique des deux côtés. C'est pas inintéressant, et ce que je note, moi ce que je trouve particulièrement intéressant dans cette histoire, c'est qu'on a au centre de tout ça le macronisme qui se délite et qui se trouve, alors qu'il avait aspiré en 2017 sa droite et sa gauche, qui se trouve lui-même à nouveau aspiré, puisqu'on va avoir des personnalités comme Gérald Darmanin, Édouard Philippe, qui se posent la question de faire une primaire avec Reconquête et les Républicains.
Oui, n'allons pas jusque-là, mais en
théorie. Et de l'autre côté, on va avoir des Gabriel Attal, et ce qui reste de l'aile gauche de la Macronie, qui pourrait, pourquoi pas, participer à une primaire avec des Glucksmann, des Hollande, des Cazeneuve, etc. Donc on a finalement une espèce de retour à l'envoyeur, de dislocation du macronisme qui... pour ce qu'il en reste, se déverse dans les partis qu'il avait vidés en 2017.
Mais ce qui est particulier, c'est que la primaire, au lieu de désigner les leaders de chaque parti ou de chaque camp, désigne les outsiders de chaque camp. C'est ça c'est pour ça que je revenais un peu à l'origine de la primaire avec Balladur. C'est qu'en fait, au lieu de désigner les leaders de chaque camp, là, on a un scénario où en fait, les deux leaders vont rester Jean-Luc Mélenchon et potentiellement Jordan Bardella, qui potentiellement pourraient encore parvenir au second tour. Tandis que la primaire ne donnerait que des outsiders. C'est ça un peu ce principe
mais
particulier.
Oui, mais deux choses d'une. Au lieu d'en avoir 42, il pourrait n'en avoir que deux. Premier élément. Deuxième élément, il y a quand même le seuil d'accessibilité au second tour qui est à prendre en compte dans cette campagne, qui est très bas. Troisièmement, que le Rassemblement National commence toujours et toutes ses campagnes depuis maintenant 20 ans avec 7 à 8 points au-dessus. Que Marine Le Pen a commencé la campagne de 2022 avec 12 points de plus que Jean-Luc Mélenchon. Elle a fini à 400 000 voix de lui, etc., etc., etc. Donc il y a des dynamiques qui se mettent aussi en place en campagne, et une primaire peut créer une dynamique. Et même Valérie Pécresse, si elle n'était pas mauvaise candidate, rappelons qu'elle a commencé à 22 sa campagne. 22%. Elle a fini à moins de 5, parce qu'elle est nulle, pas parce qu'il y a eu une primaire. Pierre.
Bah, là où je suis aussi pas d'accord avec ce que dit Emmanuel, c'est que ça aurait du sens même sans le RN, parce que justement, ce sont des petits candidats, enfin en tout cas des... proportionnel relativement
moins fort.
Sont objectivement plus bas que le RN dans les sondages. Merci Stanislas.
Bah, oui, il y en a un qui a gagné, les autres, il y a un grand.
Non, mais pays. Aujourd'hui, si on regarde les sondages, en effet, LR, Reconquête et les forces de les différents candidats de droite sont objectivement beaucoup plus bas. Mais justement, une primaire pourrait cumuler tous ces scores et donc avoir un score qui, en effet, au vu des seuils de qualification, serait plus du tout déconnant, autour peut-être des 15%. Et le RN ayant un candidat à 15% à ses talons pourrait éventuellement revenir aussi autour de la table pour se dire on n'avait que des candidats globalement ridicules par rapport à nous au niveau du score. S'il y a un candidat unique qui est soutenu quand même par pas mal de monde avec autour de 15, peut-être même 20% s'il y a une dynamique qui s'enclenche, ça peut les faire réfléchir et se dire peut-être qu'en effet ça vaut le coup de réfléchir tous ensemble à une candidature unique. Et là ils y perdraient parce que rejoindre...
À l'issue de la primaire ?
Pas forcément à l'issue de la primaire, mais en tout cas ça les pousserait...
Ça n'a aucun sens. Oui, ça n'a aucun sens.
Non mais au-delà... pas forcément, pardon.
C'est ensemble à la base.
Non mais pas forcément en effet une candidature unique, mais en tout cas qu'ils adaptent leur campagne et que... Voilà, non mais bien sûr. Non mais vous avez
c'est dans la modalité des primaires qui arrivera à trouver les modalités d'une primaire qui pourrait réunir, enfin permettre qu'à la fin de la primaire un Xavier Bertrand se rallie à un Éric Zemmour. Enfin c'est
quand déjà même... il faut exister par principe Xavier Bertrand et tout, il faudrait un peu de génie certes.
Et
celui qui le fera sera vraiment impressionnant, je pense.
Ouais, c'est
Antoine de Touchard.
Et ça s'entendrait-il sur une idée essentielle, effectivement? Qu'est-ce qui pourrait les rassembler?
Non, et si je peux compléter le propos d'Antoine, il y a le sujet des idées, mais aussi le sujet
c'est
des...
C'est insupportable, votre comportement.
Etienne, ça va. Il y a le sujet des idées, je rends le bâton de la parole à mon ami Antoine. Il y a le sujet des idées.
Lâchez-lui déjà.
Mais il y a aussi le sujet des circonscriptions. Et même le sujet financier. C'est comment est-ce qu'on s'accorde après, au-delà des idées, pour que les perdants s'y retrouvent et donc acceptent de participer en amont à la...
Brillant.
Pardon, mais...
Vous avez peut-être... Attendez,
c'est à toi que je rends la parole à Antoine.
J'ai entendu ce propos-là dans la bouche des
yeux. Vous avez tout dit, mais vous n'étiez pas là. C'est mystérieux, quand même.
Ah bah, excusez-moi, je suis très efficace.
Stop.
J'ai moins de temps présent, c'est plus
Antoine, stop. Je me dois de maîtriser l'antenne.
Peut-être peut-on dire que le point commun de toute la droite, excepté le RN, sont des idées économiques. Sont des mesures économiques surtout assez libérales, qu'on aille de Reconquête jusqu'à LR, là où le RN est moins libéral en économie. Par contre, sur le reste, les questions identitaires, sur les questions d'immigration, je pense qu'entre Reconquête et pas mal de candidats de LR, il y a des idées qui ne seront vraiment radicalement pas les mêmes. Et pourtant, par exemple, un Éric Zemmour, ses idées sont centrales. Donc comment s'entendront-ils là-dessus ? Éric Zemmour accepterait-il d'appeler à voter pour le vainqueur de cette primaire si ce vainqueur ne portait pas un discours identitaire, par exemple, qu'il a porté lui dans son dernier livre?
Oui, alors sujet, et c'est là où les modalités rentrent en compte, et je vous fais peur de ce point de vue-là, Antoine, et je serais très très intéressé à votre avis. Si cette primaire est ouverte, qu'Éric Zemmour y participe, ou Sarah Knafo, qu'ils la perdent, objectivement, c'est qu'ils aient peu de chances de gagner la prochaine présidentielle. Objectivement. S'ils perdent face à Xavier Bertrand, la primaire.
Si déjà à droite, ils n'arrivent pas à rassembler la majorité.
Exactement, ça semble assez compliqué. Donc d'une certaine façon, c'est une clarification avant l'heure douloureuse, mais qui a le mérite de la clarté pour beaucoup. Deuxième élément, il faudrait, je crois, dans une primaire comme ça, je dis ça en y réfléchissant à voix haute, peut-être une forme de discours commun d'une dizaine d'éléments, peut-être de 10 thématiques ou en tout cas de 10 idées claires qui engageraient les X candidats à la primaire à se mettre d'accord, quoi qu'il arrive, sur ces points-là, en y concourant. Et donc, après, de ce fait, de dire, attendez, non, sur les ARS, on veut pas les supprimer, mais non, on veut les supprimer, mais se mettre d'accord sur les 10 grands sujets essentiels, en prenant, par exemple, la défense, l'éducation nationale, l'immigration, etc., et trouver 10 grands sujets qui engageraient, évidemment, le vainqueur, mais aussi toutes les personnes qui participent à la primaire. Mais je vous rends la parole.
Le seul intérêt, pour le moment, que je vois, moi...
Pardon, j'en finis là-dessus, c'est ça que je voulais en dire, j'en finis, plus court aussi pour moi.
Stanislas, c'est insupportable.
Pardon, vous êtes arrivé en retard, mais vous avez réussi à parler plus longtemps de toute l'émission.
Ouais, c'est le talent.
Le plus de toute l'émission. Et j'en finis là-dessus. Et donc, les Xavier Bertrand, les Darmanin, etc., de fait, se retrouveraient à devoir débattre sur des thématiques de droite et donc imposer d'emblée dans la campagne un sujet très fort.
C'est l'intérêt, peut-être, qu'on pourrait trouver une primaire incluant le Reconquête, c'est qu'on inclurait dans les débats qu'on a dans toutes les primaires de droite habituelles qu'on a eues jusqu'à maintenant, la voix de Reconquête, qui est disruptive dans cette partie de l'électorat. Mais, encore une fois, l'argument que vous avez avancé, à savoir écarter les petits candidats avant la présidentielle, ces petits candidats ne portent pas beaucoup d'ombre au premier tour, de toute façon. Qu'ils soient là au premier tour ou non, ça ne change pas tellement la position des deux premiers, ou des trois premiers, du premier tour.
Enfin...
Ou très peu. C'était un argument qu'on entendait beaucoup en 2022, est-ce que l'électorat Reconquête empêcherait Marine Le Pen de passer au deuxième tour ? Ça ne l'a pas empêché.
Vous avez raison.
Pas très loin, cela dit.
Déjà, pas si loin que ça, avec 400 000 voix. Et puis, il y a quand même eu un vote utile dans la dernière ligne droite, estimé entre 6 et 7% par l'IFOP à l'époque. Et deuxième élément, la différence qui semble se dessiner du côté de LR, pour le moment, en tout cas, ça peut aller très vite, c'est que le candidat LR serait beaucoup plus droitier qu'en 2022, où on avait globalement une macroniste qui ne le disait pas, enfin, en tout cas, sur la ligne idéologique. Objectivement, sur une ligne politique, il est quand même plutôt droitier.
Ça, sachant qu'une partie de l'électorat LR a déjà quitté LR avec Ciotti pour rejoindre le RN.
Bah, en tout cas, ils font gagner à 75% Retailleau face à Wauquiez. Wauquiez, en tout cas dans son discours, n'est pas un centriste. Moi, je ne le considère pas comme très, très à droite, pour être tout à fait franc. Mais Retailleau, dans le discours, hein, je ne vous parle pas des Alt, hein, puisque lui se défendrait très bien en disant qu'il n'avait pas toutes les manettes, etc. Mais oui, je considère que les LR en fait, sont peut-être plus droitiers qu'en 2022 encore. Et que tous n'ont pas rejoint Éric Ciotti, enfin, notamment les élus, par exemple. Les élus, il y en a deux qui ont rejoint Éric Ciotti. Enfin, deux, dont Guillaume Carillon, qui n'était pas élu et qui ne l'est pas. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué, mine de rien, que d'avoir les Bellamy, que d'avoir aussi les élus comme Julien Aubert, les maires, les municipalités, Gilles Platré, etc.
Mais encore une fois, moi, oui. Je trouve que c'est le point que vous soulevez est quand même assez intéressant, dans le sens où on revient à cette histoire des curseurs, les mêmes idées, mais c'est la position des curseurs qui changerait. Et je pense que c'est quand même intéressant de réfléchir aussi à dans quel sens vont ces curseurs. On a des curseurs qui, du côté d'Éric Zemmour, depuis 40 ans globalement, sont les mêmes, même s'ils n'étaient pas en politique, ils sont restés les mêmes et fidèles. Quand on voit les curseurs de LR, ça va dans un sens qui est inquiétant pour un électeur de droite qui est sincèrement de droite. Et donc je pense qu'il y a, malgré tout, il y a aussi des questions en plus d'incarnation, où je ne suis pas sûr que un électeur de droite ou d'Éric Zemmour qui, même sur un programme qui ressemblerait très fortement au programme d'Éric Zemmour, serait prêt à voter pour un Xavier Bertrand qui porterait ce programme, par exemple. Parce qu'il y a quand même une question d'incarnation du programme, et la présidentielle, c'est aussi une question de rencontre d'une personne en plus des idées.
Entre une personne et un peuple, c'est ça ?
Exactement, pour reprendre...
Étienne, dessus ?
Je voulais dire d'abord très vite que j'étais assez choqué par le comportement d'Emmanuel, qui est sur son téléphone depuis trois quarts d'heure et qui
n'est pas passé. Non, je lui ai demandé de faire une recherche pour
ce téléphone. C'est co-religionnaire, non, je trouve ça assez désagréable.
J'ai mes sources, pardon, j'ai mes sources.
Je vous écoute, alors qu'est-ce que vous avez trouvé comme information, Emmanuel ?
Ah. le réseau ne passe plus.
Le Laurent qui a-t-il vraiment eu l'agrégation d'histoire ?
Non,
Il y a un tout petit point, un tout petit angle mort sur cette histoire de primaire qu'il faut aborder quand même, c'est la réalité des intentions des uns et des autres. Je pense que d'un côté, Éric Zemmour joue très bien son jeu en crédibilisant, parce que la primaire crédibiliserait de fait énormément.
Parce qu'il a tout intérêt.
En le mettant au niveau
pas
de.
Pas tant, je pense, c'est vraiment pour par honnêteté aussi.
Ou Reconquête, ouais, ou les Républicains. Et de l'autre, il faut quand même aussi voir clair deux secondes dans le jeu de Laurent Wauquiez, qui n'est pas tant un partisan de la primaire avec Reconquête et d'autres, qu'un partisan de faire la nique à Bruno Retailleau aussi souvent que possible. L'expression n'est pas si choquante que ça, Stanislas, ça va
non,
aller.
Non, mais ayant moi-même été élevé par des parents polis...
Donc, c'est assez flagrant que depuis quelques mois, et encore plus depuis le départ de Bruno Retailleau du gouvernement, Laurent Wauquiez ne joue que des cartes anti-Retailleau, et Retailleau ne joue que des cartes anti-Wauquiez. Il vous aura pas échappé que quelques... semaine avant de quitter le gouvernement, Bruno Retailleau disait qu'il était contre la primaire, qu'il fallait qu'il y ait un seul candidat aux Républicains, qu'il y aille tout seul, que sa famille est revenue. Voilà, maintenant Laurent Wauquiez pour une primaire. Et donc il faut aussi voir clair dans le petit jeu de Laurent Wauquiez.
Et d'ailleurs, c'est amusant parce que prend les primaires du PS ou de l'UMP, notamment en 2009 pour le PS, ce qui est intéressant, c'est que les primaires, elles avaient pour premier but de clarifier une ligne interne et de clarifier des contradictions, et souvent même au-delà des difficultés de clarification sur la ligne idéologique, voire même sur l'organisation interne. Et qu'aujourd'hui, en fait, Laurent Wauquiez utilise ce prétexte, ce souci interne
et souhaite le régler à travers une primaire, Stanislas, pardon. Et du coup, il associe les autres partis politiques qui n'en ont pas forcément le même besoin. C'est-à-dire que pour Laurent Wauquiez, il y a un objectif un peu traditionnel pour une primaire de clarification interne, et du coup, il y associe d'autres pour organiser sa primaire afin de prendre la tête de son parti. Enfin, je trouve qu'il y a plusieurs...
Vous êtes en train de dire que Laurent Wauquiez a un double discours et un double agenda.
Oui, oui, oui.
Brillant.
J'assume mes propos.
Ça vaut le coup de faire la recherche.
Chers amis, troisième sujet de l'émission. Un sujet qui vous touche beaucoup, Emmanuel, et je vous invite à présenter en quelques mots et brièvement. Puis après, nous parlerons si nous avons le temps d'autres sujets, soit de littérature pour conclure cette émission avec un peu plus d'intelligence qu'elle ne l'a commencé. Emmanuel, Charlie Kirk.
Quel sujet voulez-vous aborder? Le meurtre en tant que tel? La récupération politique de l'extrême droite?
On en a parlé en début d'émission, pardon, dans le sommaire de l'émission.
C'était dans le sommaire, excusez-moi, pardon Emmanuel. Est-il possible en France d'imaginer un Charlie Kirk? Je vous refais un peu le sommaire. Certains tentent de mettre en place des initiatives y ressemblant fortement. Je pense aux médias frontières, à Luminis, à Jean-Yves Le Gallou, à d'autres. Vous qui avez, je crois, étudié la question, est-il possible d'avoir en France un Charlie Kirk? Est-ce souhaitable? Est-ce réalisable? Est-ce une solution qui pourrait arriver dans les prochaines semaines, prochains mois?
Je pense que on peut le souhaiter, on peut l'espérer, parce que forcément, quand on voit le bien que ça a fait, la figure qu'il a représentée aux États-Unis auprès de la jeunesse, mais même d'un point de vue politique, dans l'organigramme du parti républicain, on peut que souhaiter qu'il y ait une figure comme ça qui émerge dans le débat public. En revanche, ce qui paraît délicat, tout d'abord, c'est la comparaison entre la culture française et la culture américaine. Je pense que si Charlie Kirk a émergé aux États-Unis, c'est parce qu'il a profité d'une culture de la liberté d'expression qui est propre aux États-Unis et qui n'existe pas, en tout cas de la même manière, en France. Donc ça, c'est le premier aspect. Ce qui est possible, ce qui est faisable, ce qui a réussi aux États-Unis ne réussira pas forcément en France. Et par ailleurs, il y a aussi un aspect très simple, c'est que Charlie Kirk, maintenant, est suffisamment connu, malheureusement après sa mort, pour qu'en quelque sorte la marque soit déposée et que ce soit beaucoup plus difficile de la transposer en France. Quand un projet a réussi, quand quelque chose a fonctionné et a eu du succès, forcément, la légitimité de celui qui le duplique est moins forte que la légitimité du projet initial. Voilà. Après, par ailleurs, par rapport à ce que je viens de dire, je pense qu'il y a tout de même un espace qui est à prendre, c'est-à-dire sans recopier ce qui a été fait aux États-Unis, à la fois parce que ça a déjà été fait et donc il faut trouver une nouvelle crédibilité, un nouveau dispositif, et en même temps parce que les conditions ne sont pas réunies de la même manière qu'elles le sont aux États-Unis. Et donc il y a un espace à prendre pour créer un autre mode de dialogue dans d'autres sphères que les sphères médiatiques traditionnelles. Je pense qu'il y a un espace à prendre effectivement pour aller à la rencontre des Français, pas forcément dans les universités comme le faisait Charlie Kirk avec une table, pourquoi pas dans les marchés, pourquoi pas dans les bars, pourquoi pas dans les meetings politiques, pourquoi pas dans les zones rurales, pourquoi pas dans la France périphérique. Je pense qu'il y a un espace à prendre. Donc si je conclue rapidement, je pense qu'effectivement il ne faut pas dupliquer parce que c'est pas un gage de succès en France qu'a fait Charlie Kirk, et ensuite si on veut gagner en efficacité, il faut innover avec un fonctionnement et un dispositif qui est propre à la France. Mais ce qui est certain, c'est que ce mode de communication à l'arrière des réseaux sociaux fonctionne très bien. Par le déclin aussi de la politique traditionnelle, il y a évidemment la place pour qu'un leader jeune, charismatique, émerge et réussisse à trouver son public parmi la jeunesse de France qui souvent se désintéresse et ne vote pas aux élections présidentielles.
Et le problème aujourd'hui, justement, pour recentrer un peu le sujet, c'est que
j'ai beaucoup de reproches à faire à Emmanuel, c'était assez centré.
Non, mais c'était centré, mais c'était très.
Pierre,
pour rendre plus concis. Pour revenir aux fondamentaux, ce projet-là, au-delà qu'en effet, il ne faut pas tout décalquer sur les États-Unis parce que tout ne peut pas s'appliquer, il faut aussi la personne. Et aujourd'hui, dans les initiatives qu'on a pu voir, dans certains qui l'ont fait, vous les avez citées, je n'ai pas vu quelqu'un qui soit transcendant sur le sujet et qui soit, à l'image de Charlie Kirk, cœur capable de répondre à l'intégralité des arguments de, avec brio qu'on lui a adressé. Et aujourd'hui, pardon, il y a certains moments où on a plus l'impression que ça dessert la cause quand on regarde certaines vidéos qu'autre chose. Et quand on parlait de la viralité, il y a aussi eu de la viralité parce que Charlie Kirk était une figure importante. Aujourd'hui en France, on ne voit pas de viralité autour de ce phénomène-là.
Alors justement Antoine, en France, quand on essaie de se rendre dans des lieux face à la gauche, la jeunesse de droite a souvent, et c'est vrai que ça fonctionne en termes de cartons sur Internet, en termes de cartons d'audience, que ce soit les grosses chaînes, CNews, le JDD, alors, il y a eu toute une culture de « on ne peut plus s'exprimer ». D'ailleurs, la gauche est très violente et la gauche est très méchante avec nous. Et alors qu'on essaie de débattre avec eux, eux ne veulent pas débattre avec nous. Indignez-vous et rejoignez-nous et soutenez-nous. Donc, c'est un système qui fonctionne, il est vrai, en termes de visibilité. Mais c'est un peu tout l'inverse de ce qu'a fait Charlie Kirk aux États-Unis, c'est-à-dire ne jamais dans une posture victimaire, une posture plutôt et non pas plutôt combative, et en tout cas ne jamais à se plaindre et surtout d'accepter le débat mais ne pas fuir sa radicalité pour autant.
Effectivement, et c'est lié à ce que disait notre ami Emmanuel au début, c'est qu'aux États-Unis avec cette idée de liberté d'expression, il n'y a pas un camp du bien politiquement, je veux dire, il n'y a pas un camp du bien qui a raison, il n'y a pas une morale majoritaire. On peut dire un peu tout ce qu'on veut, c'est pour ça qu'on trouve d'ailleurs les excès des excès dans tous les camps. En France, il y a une morale majoritaire, et c'est la morale de gauche. Donc un homme de droite, qui même, quand bien même il serait de droite, a intégré que la morale majoritaire, que les codes sont à gauche, et donc il y aura toujours un peu un complexe. Et effectivement, Charlie Kirk, lui, n'était pas complexé, il était sûr de lui, il avait, pardonnez-moi l'expression, du culot, il y allait en étant sûr de lui. En France, quand on est de droite et qu'on va dans une université ou dans d'autres milieux réputés à gauche, on n'est pas sûr de soi. On sait qu'on aura non seulement les gens qui nous entourent contre nous, mais qu'on peut avoir la justice, qu'on peut avoir les réseaux sociaux, qu'on peut avoir beaucoup de personnes pour nous attaquer. Il y a un climat qui est beaucoup moins propice à un débat, même musclé. C'est là la difficulté. La gauche étant majoritaire moralement, pas forcément en pourcentage de vote, mais en poids moral étant majoritaire, ils n'ont pas envie de débattre, c'est normal. Quand on est majoritaire, on ne veut pas débattre, on veut garder sa place. Et donc, par principe, les gens, par exemple dans les universités et milieux que j'ai connus, la place n'est pas au dialogue et à la discussion et au débat et à la confrontation. La place est au combat virulent et parfois même physique pour garder son poste, sa prédominance, en passant par des blocages, en passant par du syndicalisme et d'autres activités assez fréquentes dans ces universités notamment.
Étienne Darjac, non pas tant sur le sujet Charlie Kirk, mais sur cette façon d'aborder nos adversaires. C'est vous-même qui avez pronostiqué un second tour Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon, donc indépendamment des personnes de courant de pensée, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bloc national, qualifié par nos adversaires d'extrême droite, et la gauche unie, ce que nous appelons l'extrême gauche. C'est le retour du clivage droite-gauche dans ce qu'il y a de plus pur, dans ce qu'il y a peut-être de plus violent. Devons-nous essayer de les convaincre, de parler, de discuter avec eux? Devons-nous être dans cette position un peu caricaturale parfois qui consiste à dire que les antifascistes d'aujourd'hui seront les fascistes de demain, un peu à tue-tête? Est-ce que c'est la ligne qu'il faut aborder et tenter juste au bout de leur tendre la main et essayer de débattre avec des gens qui ne veulent pas débattre avec nous?
Et je vais vous faire une réponse très simple et j'espère très directe. Je pense pas que l'élection présidentielle se gagnera, prochaine, celle qui vient, en convaincant des Français de gauche, des électeurs de gauche, à plus forte raison de la France insoumise, que d'un seul coup, le projet de la droite nationale, qu'il soit porté par le RN ou par un potentiel vainqueur de la primaire des droites, est le meilleur et que tout va bien se passer et qu'en fait, on n'est pas, que c'est pas des fascistes et qu'ils sont très gentils. Je pense pas du tout ça. Je pense qu'effectivement, la présidentielle sera, comme vous l'avez dit, une confrontation très brutale entre deux projets idéologiques radicalement opposés. En revanche, et c'est là que le plus gros du travail sera à faire, si d'aventure ce camp national gagne d'une façon ou d'une autre, c'est dans les premières années de son règne, j'allais dire, de l'ère politique qui va ouvrir, qu'il aura énormément à prouver pour montrer la justesse de son projet, montrer la faisabilité de son projet, montrer qu'il n'est pas qu'il n'a rien de l'entité maléfique qu'on présente, et que c'est à ce prix-là que la polarisation se réduira et que Et je ne dis pas que le clivage droite-gauche disparaîtra, il y aura bien sûr, mais que la situation se calmera, que les tensions baisseront. Tant qu'on vit, et il y a de bonnes raisons de le penser de part et d'autre, dans un monde où, d'un côté, pour nous, il y a les communistes remplacistes, et que de l'autre, pour eux, il y a les nazis, évidemment qu'il peut y avoir que les tensions, et que ça peut être que très brutal. Il ne pourra se avoir d'apaisement que quand l'un des deux projets, évidemment je souhaite que ce soit celui de la droite nationale, aura montré qu'il est assez loin des caricatures qu'on en fait.
Emmanuel, peut-être vous qui avez abordé ce sujet en premier sur cette poursuite du sujet version plus politisée, en soit plus électorale, avant de passer à nos derniers sujets. Vous l'avez conclu, vous l'avez commencé, pardon.
Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Étienne. Et ce qui est vrai, pour revenir du coup au sujet de Charlie Kirk, c'est que ce qui est délicat dans ce projet, qui a été repris par Frontières, par Luminis, par d'autres, c'est que on a peu de chance, peu de raison de croire que, au travers de ce genre de dispositif, on va véritablement convaincre des militants d'extrême gauche. Et c'est ça qui est un peu triste, c'est que en France, ça, c'est plus une opération de communication qui est l'occasion de mettre en exergue les différents projets que vous avez évoqués, à savoir d'un côté celui de la droite nationale et de l'autre celui de la créolisation de Jean-Luc Mélenchon. Et ce qui est difficile, c'est que ce projet, je crois, s'il se contente de répliquer ce qu'a fait Charlie Kirk, est voué à l'échec et voué simplement à une forme d'agit-prop qui ne fera que renforcer les tensions. Et donc je pense que c'est d'autant plus important de créer et d'avoir l'inventivité hein, de créer un projet similaire, mais qui est un autre public, un autre dispositif qui permette d'aller peut-être chercher les électeurs qui se situent entre les deux forces principales qu'on a décrites, à savoir celle qui se réunit autour de Jean-Luc Mélenchon, celle qui se réunit autour du Rassemblement National, et pour séduire ces gens qui aujourd'hui ne sont pas forcément particulièrement convaincus, qui n'ont pas qui ne portent pas un projet radicalement différent de celui du RN, et qui seraient susceptibles de s'y rallier en vue de l'élection. Donc je pense que d'ici l'élection, effectivement, il y a peu de chances de réussir à convaincre, et donc un projet médiatique similaire à celui de Charlie Kirk pourrait être utile pour réussir à séduire cet électorat entre les deux.
Étienne Dargel, vous m'avez fait signe pour conclure.
Oui, juste une toute petite insiste, je sais pas si, je crois pas que ça a déjà été dit, mais il y a une différence aussi fondamentale qui fait que qu'un projet comme Turning Point pourrait pas marcher en France, c'est que aux États-Unis, les universités sont encore des lieux de débat qui sont à quelques rares exceptions qui ne sont pas complètement idéologisées d'un côté ou de l'autre. Il y a évidemment des minorités agissantes, mais c'est pas du tout la même situation qu'en France, où l'université est complètement aux mains de l'extrême gauche. C'est le cas de quasi toutes les universités en France, et quand c'est pas aux mains même de l'islamisme, parce que je sais pas si vous aviez lu récemment une enquête de Valeur Actuelle sur je sais plus quelle fac de l'Île-de-France, qui est quasiment aux mains des Frères musulmans. Donc c'est aussi une des différences majeures. Quand Charlie Kirk et ses sbires arrivaient dans une université, ils savaient qu'ils allaient avoir au moins 10, 20, 30% de gens convaincables, prêts à discuter, prêts à entendre leurs arguments. L'un d'entre nous irait aujourd'hui à Sorbonne, ça se passerait pas de la même manière.
Mais d'ailleurs, pour rebondir là-dessus et pour revenir sur le sujet qu'on évoquait brièvement au début, quand on voit la une de Libération de ce matin sur Pascal Pro, on se rend compte effectivement de l'écart abyssal qui nous sépare des États-Unis. Aux États-Unis, il y a deux camps politiques qui sont quasiment du coup à égalité. Et médiatiquement, c'est exactement ce qui se passe. Il y a des chaînes de droite, il y a des chaînes de gauche. Alors qu'en France, même CNews, qui pourtant écrase la concurrence, est aujourd'hui absolument vilipendé par une bonne part des médias. Donc on se rend compte que la balance n'est pas du tout la même, et qu'aujourd'hui, comme le disait Antoine, la gauche a une hégémonie culturelle qui fait qu'il est beaucoup plus difficile qu'aux États-Unis d'imposer un média de la même manière.
Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas le faire. C'est enfin, la difficulté n'est pas pardon, mais de dire c'est difficile, donc on est enfin d'utiliser l'argument que c'est difficile, pardon, mais
c'est plus facile aux États-Unis d'arriver dans une fac et de défendre des idées patriotes et de défendre voilà qu'en France.
Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Stop. Ouais. Bon merci. Continue. Et pour finir, et peut-être être dans le sens de Pierre, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est peut-être ce que vous voulez dire.
Moi, j'ajouterais que c'est bien plus beau lorsque c'est inutile, si je puis me permettre.
Peut-être quelqu'un veut-il citer du Bernanos sur l'espérance.
Et que
peut-être.
Sur la liberté de Blenet, il n'est pas des loges flatteurs.
Mmh. Sur Bernanos, peut-être. Non, sur. Sur Bernanos, peut-être. Qu'est-ce que sur l'espérance, non Saint-Paul, peut-être, sinon.
L'espérance ne déçoit jamais.
Ne déçoit pas.
Non, erreur.
Ne déçoit pas.
Non, n'est un risque à courir.
Mais non. Si, Saint-Paul,
non,
c'est
Bernanos.
Mais non, on a dit Saint-Paul, là. On a dit Saint-Paul.
Avant, je suis sur Bernanos.
J'ai dit Bernanos, bien sûr. Et que c'est un sujet qui dit que vous avez décidément
monté en retard. Regardez-là, ici, là, ça a tout sur
moi. Sinon, un dicton latin, Augusta per Angusta.
Oh là là, bon, bah attendez, Antoine, ça a me frimé sur ce plateau. Ici, personne n'est là pour sortir les bras, sortir les muscles. Parlons de cerveau, justement, quelques instants. Alors, je vous invite à sortir du plateau. Certains vont nous rejoindre la deuxième partie un peu plus culturelle de l'émission. Emmanuel de Beaumune, content de vous recevoir. Alors, lecture, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu en parler.
C'est vrai, c'est vrai.
Déjà, très rapidement, vos dernières lectures, cher Antoine, votre dernière lecture qui vous a frappé et marqué, et accessoirement la dernière lecture tout court.
Et c'est une lecture qui est en cours. Je suis en train de lire une biographie de Mahomet par un universitaire qui s'appelle Maxime Rodinson, qui était professeur à l'EPHE et qui est passionnante. C'est une vie assez extraordinaire. Et quand on lit la vie du prophète, qui est l'exemple par excellence de la vie que doit mener un musulman, on comprend beaucoup d'attitudes, on comprend beaucoup de situations. Et je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de connaître ce personnage, de connaître ce prophète.
Et en quelques mots, pardon. Sur justement ce qui vous a marqué dans cette biographie.
Ce qui m'a marqué, c'est une attitude très ambivalente du prophète. Il y a deux périodes, j'en suis au début, mais il y a deux périodes dans sa vie. La première période qu'on appelle la période mécoise, quand il est à la Mecque, où il est minoritaire, il est peu suivi par ses contemporains. Et donc, à ce moment-là, ses versets du Coran sont assez doux. Il est peu virulent et il se contente de dire ce que Allah lui annonce. Et dans une deuxième partie, après l'Égir, donc après son départ de la Mecque, il arrive à Médine. Et cette fois-ci, il commence à avoir des adeptes, des disciples. Il commence à avoir de la puissance. Et son propos et ses actes se différencient. Il devient plus virulent. Il n'hésite pas à faire assassiner les gens qu'il critique, même par des poésies, par des chansons. Ça peut faire réfléchir, par exemple, sur le cas de Samuel Paty. Il n'hésite pas à faire des razzias contre les marchands de la Mecque qui ne l'avaient pas accepté. C'est un prophète guerrier, en fait. Le prophète Mahomet, quand il a de la puissance, c'est un prophète guerrier et non pas seulement un prophète de l'écriture et du livre.
Et c'est bien écrit ?
Et c'est très bien écrit.
Étienne, cher Étienne, votre dernière lecture ou votre lecture en cours, celle qui vous a marqué ?
Dernière lecture terminée, je ne vais pas vous surprendre, c'est le livre d'Éric Zemmour sur La messe n'est pas dite. Bon, on a déjà longuement parlé, donc je passe assez vite. Et je suis en train d'achever le dernier chapitre d'un très très bon roman que je vous recommande, qui s'appelle Les Châteaux de Sable. Qui s'appelle Les Châteaux de Sable de Louis-Henri de La Rochefoucauld.
Ah, sur le retour de Louis XVI.
Absolument, ouais, qui est un roman très poétique, qui est aussi une réflexion de l'auteur sur l'histoire de sa propre famille, la place de l'aristocratie.
On sent un peu de nostalgie dans votre bibliothèque.
Absolument. De revendiquer.
C'est lié à votre caractère.
Qui est un livre vraiment très touchant que j'avais dans ma bibliothèque depuis longtemps et que j'ai repioché parce que Louis-Henri de La Rochefoucauld vient de recevoir le prix, je crois, Renaudot ou Interallié pour son tout dernier livre qui s'appelle L'amour courtois. Et donc, comme je savais que j'avais ce livre dans ma bibliothèque, je me suis dit que j'allais commencer par Les Châteaux de Sable et que j'achèterai ensuite son nouveau livre parce que ça m'a tout l'air d'être un excellent auteur contemporain que je vous recommande.
Est-ce bien écrit ?
C'est très joliment écrit, ouais.
Vous nous avez pas dit que vous deviez lire aussi le livre de Marine Tondelier ?
Oui,
et
alors,
en faire un point à nos auditeurs.
C'est vrai. Il ne l'a pas trouvé à la plaque.
Je l'avais dit, malheureusement, la note de frais pour l'achat n'est pas parvenue à Stanislas Rigaud, donc j'ai pas pu débloquer les fonds.
Pierre, puis-je vous la ramener ?
J'ai également lu donc le dernier livre d'Éric Zemmour et comme Étienne on ne va pas épiloguer sur la question et là je suis
même si quelques questions pourraient être posées sur pour être sûr non, de mais la lecture de chacune et chacun
je viens de commencer la lecture des Mémoires d'un champ de braise d'Élite Saint-Marc.
Ah, très bien.
Qui est un très beau livre en tout cas dans son début. Genre, pour être très franc, je me suis arrêté pour l'instant à la fin du premier à la fin du premier chapitre, mais voilà, c'est une lecture qui est en cours et donc dans lequel il retrace ses passages à la fois par les camps de concentration et par la guerre d'Indochine où il se rend sur place en commémoration, en tout cas dans ce premier chapitre.
Il condamne et se rend sur place.
Oula, ouais,
il se souvient et se rend sur place.
C'est peut-être un peu déplacé là, rendez-vous compte que l'école spéciale militaire de Saint-Cyr-Coquidan, depuis maintenant la mort d'Itzamar, refuse chaque année inlassablement de nommer une promotion par ce nom.
Alors qu'il a été réhabilité, mais... y compris son engagement
au
OS.
Et notamment par
Sarkozy.
Et sous la pulsion.
De Patrick Buisson, évidemment. Madame Tan, tout est checké. Je précise par ailleurs qu'à l'ISS, il y a un amphithéâtre, Élie de Saint-Marin.
Bref,
quelle belle école.
Merci Nicolas Sarkozy.
Quelle belle école. Merci Philippe de Villiers.
En l'occurrence, oui. Et on en parlera.
Et on en parlera de son dernier roman.
Emmanuel de Beauville.
Qui est le plus précis.
Pour ma part, j'ai deux livres en cours. Un essai de Christopher Lasch qui m'était conseillé récemment et que j'ai commencé. La révolte des élites, qui a été édité, je crois, à la fin, même après sa mort. Il a été édité en 95, donc à titre posthume. Et donc, c'est un peu un essai testament qui donc synthétise un peu sa pensée, qui est très intéressant, et d'autant plus intéressant que, comme l'ère du narcissisme aussi, qui est un livre qu'il avait écrit précédemment, a aussi cette qualité d'être plein de références qu'on ne connaît pas en France, puisque c'est un auteur anglo-saxon, et donc ça nous permet de nous relier à tout un univers idéologique qui est très proche du nôtre, mais avec des références, des auteurs, qu'on ne connaît pas, et donc c'est un livre qui pourrait être très franc et pas facile à lire, mais qui du coup a cette double, je trouve, double richesse à la fois de référence et en même temps d'analyse, puisque ça revient sur toute la modernité, sur la démocratie, puisque c'est ça le propos, c'est de montrer qu'en fait le danger de la démocratie n'est pas dans les masses, mais dans ces élites qui ont fini par la trahir. Donc c'est très intéressant, mais très, très touffu, je dirais. Et puis par ailleurs, il se trouve que j'avais le malheur de ne pas avoir lu Vol de nuit de Saint-Exupéry, et donc j'arrive bientôt au terme, et c'est évidemment un très beau livre.
Ah, vous êtes plutôt adepte de Saint-Exupéry?
Je suis plutôt adepte de Saint-Exupéry,
moi je trouve que c'est d'une longueur, au bout d'un moment, on a tous lu.
L'avantage sur la longueur, c'est que c'est des livres très courts.
Vous avez pas lu Citadelle, vous, parce que si on dit
terme. Excusez-moi, Citadelle, Terre des Hommes, Vol de nuit, Le Petit Prince, c'est quand même pas des livres très épais.
Moi, je crois qu'il faut qu'on arrête avec Saint-Exupéry. Ça suffit.
J'avais pas lu parce que j'avais un a priori par rapport à Saint-Exupéry depuis le collège. Depuis le collège, j'avais un a priori. Je m'y suis remis récemment et je trouve qu'il y a un peu, si je peux me permettre, avec humilité, de Saint-Exupéry. Il y a Saint-Exupéry un peu philosophe de Citadelle, Terre des Hommes, voilà, qui peut paraître un peu pesant. Et il y a le Saint-Exupéry un peu aventurier de pilote de guerre et de vol de nuit que je trouve particulièrement enthousiasmant et surtout très fin, et que je regrette de ne pas avoir lu plus tôt, parce que je trouve que c'est des livres à juste titre qui, par leur enthousiasme, méritent d'être lus soit à l'adolescence, soit
Étienne, sur Saint-Exupéry.
Moi, je suis assez d'accord sur cette dernière partie. Moi, j'avais beaucoup aimé Vol de nuit à l'époque où je l'avais lu, il y a très longtemps. Et en revanche, effectivement, je n'ai jamais réussi à finir Citadelle, que je trouve dans un ennui absolument mortel.
C'est plutôt un livre qui tient une porte, quoi.
Il y a plus gros, c'est épouvantable. Et puis Le Petit Prince, n'en parlons pas. Je ne comprends pas. Et pourtant, je l'ai relu récemment. Je ne comprends pas ce qu'on trouve à ce conte. Mignon, c'est poétique. Mais enfin,
pourquoi est-ce qu'on fait le lire si tôt? C'est sans doute un conte métaphorique et philosophique comme l'est Candide de Voltaire. Mais il mériterait, à mon sens, d'être non pas lu en 6e, mais peut-être étudié en philosophie.
Peut-être en 5e
Peut-être en CP, on sait pas. Enfin, peut-être apprendre à lire avec Le Petit Prince. Non, mais c'est... quand on pense que c'est le livre, je crois que c'est le livre le plus vendu au monde après la Bible.
Effectivement.
Ça n'a aucun sens.
Alors, vous l'expliquez comment? Peut-être,
pas.
Antoine, non, vous avez...
Pas.
Non, vous l'avez lu, Le Petit Prince?
Alors, très bien.
Je l'ai écouté.
Fierté française.
Ah oui, ou ça, c'était...
Dans la voiture, on avait un enregistrement du Petit Prince.
Ah oui.
Entre deux disques de Gilles Bainville sur l'histoire de France.
Exactement. Patriote sincère avant tout.
Sur Dana et Turo, écoutez-moi,
vous ne lisez pas?
Écoutez, il se trouve que j'ai acheté le dernier François Gisbert en partance pour Rocamadour il y a de ça une semaine, donc qui est la suite, enfin la conclusion de sa trilogie sur l'histoire intime de la 5ème République.
Super.
honnêtement, c'est le titre c'est, s'intitule Voyage dans la France d'avant, quelque chose comme ça, son dernier bouquin. Et donc j'ai lu, je suis à la moitié. Il y a quand même un peu. Alors, c'est très bien écrit, c'est très bien raconté, il y a des scènes formidables, tout ce que vous voulez. Il y a quand même globalement un peu de. Après 70 ans, avoir été à l'Obs, au Monde, avoir été sur toutes les chaînes de TV, en ayant fait 15 barrages aux plus grandes haines de tous les temps, après avoir été un admirateur sans borne de François Mitterrand, se réveiller et dire c'est quand même dingue. Bah avant, on se faisait pas trucher dans la rue. C'est un petit peu agaçant, pour être tout à fait franc.
C'est la spécialité des néo-boomers de droite.
Ouais, exactement. Mais c'est même si c'est très utile et qu'accessoirement, dans ce cas très précis, c'est plutôt bien écrit. On est assez agacé en lisant le livre sur vraiment. En fait, vous savez quoi, c'est amusant parce qu'il est pris de nostalgie tout du long de ce livre où il raconte de ses années normandes, son arrivée à Paris, il y a toute cette partie de montée à Paris qui vous touche aussi, j'imagine, Emmanuel. Et
non.
Il nous rend réellement. Et il nous rend. Bah si, enfin, parce qu'on m'a déjà dit.
Il est versé, donc la montée à Paris pour lui, c'est oui, déjà ça.
C'est 12 minutes.
Ouais.
Oui. Coup d'ailleurs, c'est sûr qu'on n'écrit pas un roman avec ça. Hein.
Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ouais, la haine. C'est... La haine de ces gens. Mais bon. Et donc, en tout cas, pour finir, une minute, mais juste pour finir là-dessus, et donc il y a évidemment cet aspect terrible de François Gisbert qui fait lire à des gens comme nous de nos générations une époque que nous ne vivrons peut-être plus jamais, notamment parce qu'ils ont joui pendant des années et des années. Chers téléspectateurs, chers auditeurs de Radio Fruits, merci de nous avoir suivis. Cette fin est un peu précipitée, un peu brusque, puisqu'évidemment mes chroniqueurs sont trop bavards et s'ils arrivaient un peu plus à l'heure et moins en retard, l'émission serait de meilleure tenue. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Chers amis, bonne soirée à tous. À dans 2 semaines sur Radio Fruits. Et n'oubliez pas de soutenir une radio libre qui se bat pour la liberté d'expression, pour toutes les droites et pour que le service public n'ait pas la main mise avec vos impôts. À bientôt.
Vous venez d'entendre Prolongation dirigée par Stanislas Rigaud, diffusée en direct sur Radio Courtoisie vendredi 21 novembre 2025 de 21h30 à 23h, réalisée par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.